Bonjour.
Je vous remercie d'être venu à la première conférence de presse de cette année. C'est aussi l'occasion de lancer le second rapport annuel. Monsieur le secrétaire général va lancer une introduction et puis répondre à vos questions. À vous, monsieur le secrétaire général. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Nous avons commencé cette année en lançant un signal de solidarité ferme pour la Turquie. En décembre, l'OTAN a répondu à la demande de la Turquie et ces dernières semaines, nous avons vu des batteries de missiles Patriot déployées le long de la frontière sud-est de l'Alliance pour protéger et défendre plus de 3,5 millions de personnes. Ceci démontre l'engagement ferme de l'Alliance par rapport à la sécurité de l'Alliance. Il montre aussi pourquoi la défense est importante. As you will be able to see from the annual report that we are publishing today, this is a message that we need to take seriously. Le rapport, this report shows where NATO stands today, and it shows clearly the challenges that we face this year and in the years to come. The good news is that NATO today is more capable and flexible than ever before. NATO is better connected with its partners and is better prepared to face unpredictable threats. La plupart des alliés ont considérablement amélioré leur capacité à déployer et maintenir en place leurs forces ces dernières années. Dans l'ensemble, les investissements de l'OTAN en équipement moderne ont augmenté. Malgré la crise économique, la pire que l'on ait connue en une génération, notre engagement par rapport aux missions clés et aux capacités clés reste très ferme. L'OTAN reste la puissance militaire la plus importante au monde et nos 28 alliés continuent de représenter la moitié des dépenses mondiales en matière de défense. Malgré cela, les dépenses de défense dans l'Alliance sont de plus en plus déséquilibrées. Cet équilibre, ce n'est pas simplement entre l'Amérique du Nord et l'Europe, c'est aussi entre les membres européens de l'Alliance. Et si les dépenses totales de défense de l'Alliance ces dernières années se sont réduites, les dépenses de défense de la part des puissances émergentes ont augmenté. Si ces tendances se poursuivent, nous serons confrontés à des déséquilibres importants qui feraient courir aux capacités militaires de l'OTAN et à sa crédibilité politique des risques importants. On pourrait voir apparaître un déséquilibre entre la capacité de différents alliés européens à faire face, de manière efficace, à des crises qui se produisent tout près de chez eux. En deuxième lieu, un équilibre transatlantique limiterait la capacité de l'Europe à coopérer avec l'Amérique du Nord et pourrait réduire l'appui politique pour l'Alliance aux États-Unis. Enfin, la montée en puissance des puissances émergentes pourrait créer un déséquilibre de plus en plus important entre les capacités de ces pays à exercer une influence dans le monde et dans le nôtre. Évidemment, les gouvernements doivent réduire leurs déficits et leurs emprunts, des politiques fiscales saines. Cela signifie aussi des politiques de défense saines. Notre sécurité dépend de notre prospérité. Sans argent, pas de sécurité. Mais, d'autre part, notre prospérité repose sur notre sécurité. Nous devons investir pour garantir la sécurité de nos sociétés. Les menaces en matière de sécurité ne vont pas disparaître si nous ne mettons pas en priorité le rétablissement de nos économies. Cette année, nous sommes donc confrontés à trois défis. Le premier défi, c'est de garder le cap sur les investissements en matière de défense. Il y a une limite basse quant à ce que nous pouvons dépenser en matière de défense, tout en faisant face à nos responsabilités. Le deuxième défi, c'est de rééquilibrer les déséquilibres au fur et à mesure que nos économies récupèrent. Le troisième défi, c'est de bien ancrer nos capacités. Pour l'Alliance, c'est une occasion de coopérer plus étroitement pour développer les capacités dont nous avons besoin. Pour les alliés européens, c'est la possibilité de faire plus pour réduire les lacunes capacitaires. Les décisions que nous allons prendre aujourd'hui pour nos dépenses en matière de défense ont une incidence sur la sécurité de la génération qui nous suivra. La sécurité a un prix. Mais le prix de l'insécurité est inacceptable. En tant qu'Alliance, nous devons l'admettre. Je suis prêt à répondre à vos questions. Attendez les micros et n'oubliez pas de vous présenter. Adrian Coffer, Reuters. Monsieur le Général, je voudrais vous poser une question sur un incident en Syrie et l'attaque israélienne en Syrie. Il semble que les choses ne soient pas très claires. Pourriez-vous nous éclairer sur ce qui s'est passé? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en Syrie qui pourrait clarifier les choses en matière de difficultés pour les armes chimiques, par exemple? Je n'ai pas d'informations précises sur les incidents récents. Nous n'avons aucune indication d'activité dans la zone qui indiquerait, en rapport avec le déploiement de nos missiles Patriot, je n'ai aucune information nouvelle sur des armes chimiques. Itatas. Monsieur le Secrétaire Général, en 2013, vous attendez-vous à une avancée dans les négociations avec la Russie, notamment sur la défense antimissile, étant donné les cycles politiques ont changé aux États-Unis, en Russie? Est-ce que vous attendez à de bonnes nouvelles? Je m'attends certainement à de bonnes nouvelles. En 2013, notamment parce que nous avons adopté un programme de travail, autant en Russie, un programme de travail très complet, qui inclut de nouveaux éléments dans notre coopération pratique. Et donc, en ce sens, je m'attends à des avancées en 2013. Vous m'avez posé une question sur la défense antimissile. Je ne sais pas, mais j'espère que nous verrons des progrès aussi dans ce domaine. J'espère que la clarification de la situation politique, aussi bien en Russie qu'aux États-Unis, permettront d'ouvrir la voie à des progrès. Notre invitation de coopération lancée à la Russie en matière de défense antimissile est toujours valable. Nous avons invité la Russie à coopérer lorsque nous sommes rencontrés en Lisbonne en 2010. J'espère voir des progrès. Je pense que c'est dans notre intérêt mutuel de renforcer notre coopération dans l'intérêt des populations russes aussi bien que des pays de l'OTAN. Nous avons deux questions ici. Monsieur le secrétaire général, pour faire suite à notre collègue de Reuters, les frappes israéliennes en Syrie, est-ce que cela a une incidence sur la situation sécuritaire de la mission de l'OTAN le long de la frontière entre la Syrie et la Turquie? Est-ce qu'il y a une escalade au niveau de l'alerte? Qu'est-ce que ça a changé? Comme je l'ai dit, nous n'avons aucune indication d'activité préoccupante liée au développement à la mise en place, plus exactement, des Patriotes. Nous suivons évidemment la situation très étroitement et nous continuerons à le faire, bien entendu, mais avant tout, notre priorité, c'est un déploiement défensif qui vise à défendre le territoire turc. La prise d'otages en Algérie des civils des États membres ont été tués, des Japonais également. Comment évaluez-vous la menace en matière de sécurité, notamment étant donné les islamistes dans l'Afrique du Nord? Eh bien, tout d'abord, évidemment, je condamne de la manière la plus forte ces attaques terroristes en Algérie. J'exprime ma profonde sympathie aux familles touchées par cette tragédie. J'exprime ma solidarité avec les pays qui ont été touché. Cette attaque montre l'insécurité du Sahel et de l'Afrique du Nord. Il est clair que c'est très préoccupant. Ce que nous avons vu souligne la nécessité d'avoir une coopération internationale plus ferme, plus forte dans la lutte contre le terrorisme. James? Professeur James, je voudrais revenir à votre introduction sur l'implication économique de la crise pour l'OTAN. Il est clair que les budgets de défense se réduisent encore et continueront encore de se réduire pour un avenir prévisible. Et donc, je me pose la question, est-ce que la planification de défense de l'OTAN devrait tenir compte du fait qu'il serait irresponsable pour les alliés de ne pas faire de la planification de circonstances en fonction de la réduction des capacités qu'on verra à l'avenir? Il est vrai que la réalité sera prise en compte, bien entendu, dans notre planification de défense. La planification en matière de défense vise à faire en sorte que, dans l'ensemble, nous aurons les capacités qu'il nous faut pour faire face aux défis sécuritaires d'aujourd'hui et être au niveau à notre niveau d'ambition, répondre à notre niveau d'ambition. Donc, évidemment, nous tiendrons compte de cette réduction des budgets de défense. Nous avons déjà pris des mesures, bien entendu, pour répondre à cette difficulté. Nous avons lancer le concept de défense intelligente qui vise à utiliser de manière plus efficace nos ressources par une coopération multinationale. Je pense qu'il est de plus en plus évident que la seule manière dont nous pouvons garantir les capacités militaires nécessaires à l'avenir, ce sera par une amélioration de la coopération internationale. En fin de compte, il y a peut-être un allié dans l'ensemble qui sera en mesure d'acquérir du matériel très sophistiqué seul, du matériel militaire. Mais par une coopération multinationale, nous serons en mesure de combler les lacunes, de renforcer nos capacités, par exemple pour le ravitaillement en vol, notamment pour les alliés européens, pour renforcer nos capacités, par exemple en matière de surveillance, de renseignement, pour renforcer nos capacités de transport aérien. Tout cela est extrêmement coûteux et pour de nombreux membres de l'Alliance, il est hors de question de faire l'acquisition de ces capacités coûteuses seules, mais dans un cadre multinational par des projets de défense intelligente, la chose est possible. Donc, il ne s'agit pas simplement de savoir combien nous dépensons par défense, mais comment nous dépensons les budgets. Nous devons dépenser de manière plus intelligente. Mais cette année, dans le rapport annuel, j'ai aussi transmis ce message. C'est que si nous pouvons atteindre des objectifs importants par des efforts multinationaux, nous devons aussi avoir des investissements suffisants en capacité. Il y a un plancher en dessous duquel nous ne pouvons pas descendre dans nos dépenses pour satisfaire nos obligations. Agence France-Presse. Une question de suivi pour le Mali. Voyez-vous un rôle pour l'OTAN dans cette région? Est-ce que la situation, selon vous, est similaire à celle de l'Afghanistan? Tout d'abord, je voudrais saisir cette occasion pour féliciter le gouvernement français d'avoir agi de manière rapide et efficace au Mali. Le moment était venu, il était temps de mettre fin aux activités des terroristes de la région du Mali. Il était grand temps d'ouvrir la voie pour mettre en place, comme les Nations Unies en ont décidé, une force de stabilisation au Mali. J'apprécie évidemment le fait que de nombreux alliés ont décidé d'épauler la France dans cette intervention tout à fait nécessaire. Et j'espère qu'une force pilotée par l'Afrique sera pleinement opérationnelle prochainement et sera en mesure de remplir le mandat des Nations Unies. Les Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies, a décidé que ce serait une mission pilotée par l'Afrique et c'est la raison pour laquelle je ne vois pas l'OTAN jouer un rôle en tant qu'organisation au Mali ou dans la région. Mais bien évidemment, je me réjouis du fait que certains membres de l'Alliance aient pris des mesures et aient décidé d'épauler les Français dans leur opération au Mali.
Good morning, Mr. Secretary General. I would like to come back to the situation in Mali and terrorism in the region. Have you considered a closer cooperation with Algeria to fight terrorism, considering what happened in the southeast of Algeria? Thank you.
We already have a partnership with Algeria within the so-called Mediterranean Dialogue partnership. And we're now strengthening this relationship between NATO and Algeria. I intend to develop this partnership in the years to come.
Pakistan, Geo TV.
Harami Farouki, Geo Television. Monsieur le secrétaire général, le Pakistan a annoncé qu'il libérait les
talibans de ces prisons. Quelle serait votre opinion sur la question?
C'est une décision nationale et donc nous ne pouvons pas effectuer d'ingérence dans cette question.
Nous présumons que le Pakistan fera face à ses obligations internationales et prendra toutes les mesures nécessaires pour empêcher des actes de terrorisme et de violence dans la région frontalière qui sépare le Pakistan et l'Afghanistan et contribuera d'une manière positive à la stabilité, à la paix et à la sécurité en Afghanistan et dans la région.
Monsieur le secrétaire général, quelles sont vos intentions cette année pour le Kosovo? Je pose la question parce que récemment, un responsable européen a indiqué que vous préfériez que la KFOR reste sur le terrain. Vous auriez indiqué que pour l'instant, la situation en matière de sécurité est stable, mais que nous ne savons pas ce qui se passera demain.
Pour l'instant, les effectifs de la KFOR restent ce qu'ils sont, environ 5000 hommes, un peu plus. Comme vous le savez, nous avons un objectif à long terme qui est de réduire encore le nombre de les effectifs que nous avons au Kosovo. Mais étant donné la situation dans le Nord notamment, nous avons reporté toute décision visant à réduire encore notre présence au Kosovo. Donc nous maintiendrons les effectifs que nous avons pour l'instant, aussi en tant que nécessaire, pour nous assurer que nous pouvons faire face aux responsabilités que nous donne le mandat des Nations Unies et faire en sorte que nous puissions garantir la sécurité et la liberté de mouvement de tous au Kosovo.
Ukrainian Media. Interfax. Monsieur le secrétaire général, j'aimerais savoir comment vous voyez la coopération avec les pays du partenariat cette année. Est-ce que l'OTAN a quelque chose de neuf à offrir?
Tout d'abord, je voudrais souligner que nous attachons beaucoup d'importance à nos partenariats, notre partenariat avec l'Ukraine. Nous savons que le leadership ukrainien, manifestement, a exprimé son ambition de renforcer son partenariat avec l'OTAN dans le cadre qui existe actuellement. Comme vous le savez, nous avons établi une commission OTAN-Ukraine et notre dialogue politique et notre coopération pratique avec l'Ukraine se déroule dans ce cadre. Donc, la commission OTAN-Ukraine. Pour vous donner un exemple, je voudrais indiquer que nous avons prévu une réunion de la commission OTAN-Ukraine au niveau des ministres de la Défense. Lorsque les ministres de la Défense de l'OTAN se réuniront en février, voilà un exemple du fait que malgré certaines difficultés politiques, nous continuerons à maintenir ce dialogue au niveau le plus élevé avec l'Ukraine. Nous avons encore le temps pour deux autres questions.
Monsieur le secrétaire général, en Italie, de divers partis politiques réfléchissent aux dépenses qu'implique l'acquisition de F-35 et j'aimerais avoir votre évaluation de ce renouvellement des capacités aériennes italiennes dans le cadre de la défense intelligente.
En tant qu'organisation, en tant qu'alliance, l'OTAN ne se mêle pas des décisions nationales s'agissant de renouvellement de matériel militaire. Il s'agit là d'une prérogative nationale, d'une décision nationale que nous respectons évidemment, mais en même temps, bien sûr, nous présumons que les membres d'Alliance prennent leurs décisions dans le cadre du processus de planification défense de l'OTAN, en voulant s'assurer que, dans l'ensemble, l'Alliance a les capacités dont elle a besoin pour répondre aux défis en matière de sécurité de notre époque. Mais, d'une manière plus générale, je voudrais souligner la nécessité d'avoir une coopération multinationale aussi lorsqu'il s'agit d'acquérir du matériel, de l'équipement militaire, d'un nouveau matériel militaire. On peut arriver à ce que les économistes appellent des économies d'échelle si, ensemble, on regroupe ces efforts, par exemple, dans le processus d'acquisition. Lorsque les alliés prennent leurs décisions en matière d'acquisition au cours des prochaines années pour acheter du matériel militaire, bien entendu, ils doivent tenir compte de la manière dont cela pourrait se faire d'une manière efficace et économique en regroupant leurs efforts. J'ai deux questions, l'une sur le Mali. Quel message que donne cette mission quant à la capacité de certains membres de l'Alliance? Est-ce que cette opération démontre des lacunes, des déséquilibres, des lacunes qu'il faut peut-être combler? Je sais que ce n'est pas une mission OTAN, mais est-ce que cela montre quelque chose quant aux capacités des alliés? Et vous avez aussi indiqué qu'il y a un plancher pour les dépenses en matière de défense que peut se permettre l'Alliance. Pourriez-vous nous dire quel est ce plancher? Est-ce que nous nous en rapprochons? Est-ce que nous sommes en dessous? Est-ce que certains alliés sont déjà allés trop loin en dessous de cette limite inférieure? Je commencerai par ce dernier point, c'est que malgré les difficultés économiques, malgré le déclin des budgets de défense, nous avons vu tous les alliés rester engagés dans leurs engagements dans les opérations de l'OTAN. Et c'est un effort important de déployer des troupes, par exemple, jusqu'en Afghanistan. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ces déploiements. Ce sont des facteurs déterminants importants pour la réforme, pour la restructuration de nos forces armées ces dernières années. Et donc, même les pays qui ont opérer des coupes importantes dans leur budget de défense, ils ont préservé leur capacité à se déployer, à déployer des forces dans le cadre d'opérations menées par l'OTAN. Donc, je vais résister à la tentation de me lancer sur cette pente glissante qui est de désigner du doigt certains pays dans l'ensemble. Nous avons vu un engagement ferme dans la participation à des opérations militaires internationales. Et s'il s'agit d'encourager certains pays plus particulièrement, je le ferai au niveau politique. Et donc, mon message est un message d'équilibre. C'est que, d'une part, je lance une mise en garde. Il faut éviter, évidemment, des coupes trop sévères dans les budgets de défense, mais d'autre part, je souligne ce qui est positif. C'est que, malgré l'austérité, les conditions austères où nous nous trouvons, les pays restent engagés dans le déploiement d'opérations internationales. Ils gardent leurs engagements en matière de réforme, de restructuration de leurs forces armées. Et d'une manière générale, nous avons vu plus de déployabilité, plus de souplesse, plus de mobilité des pays de l'OTAN, des forces de pays de l'OTAN. Pour revenir à votre première question, les capacités et l'opération au Mali, je voudrais souligner ce qu'il y a de positif tout d'abord. Encore une fois, nous voyons un allié européen prendre le premier rôle. La France a réagi rapidement, de manière efficace, et j'apprécie énormément cette initiative. D'autres alliés européens ont décidé d'assister, d'épauler la France de différentes manières. Les États-Unis et le Canada ont aussi décidé d'épauler la France. Et tout cela montre la force de l'Alliance. Même si l'OTAN ne joue pas de rôle en tant qu'alliance, en tant qu'organisation, le fait que nous soyons une alliance, les alliés pris individuellement sont en mesure de coopérer et d'opérer ensemble. Opérer ensemble est possible grâce au cadre que nous avons en tant qu'alliance. Nous sommes habitués à travailler ensemble. Notre matériel militaire, nos matériels militaires sont interopérables parce que nous sommes habitués à opérer ensemble. Donc même dans le cas où l'alliance en tant que telle ne joue pas de rôle, d'une manière indirecte, elle contribue, l'alliance contribue à rendre possible le succès de cette opération parce que les membres d'alliance sont habitués à coopérer. Mais cela dit, l'opération illustre également le fait que les alliés européens ont toujours besoin de l'appui important des États-Unis dans leurs efforts pour mener cette opération. Et donc l'opération du Mali, encore une fois, souligne la nécessité d'un effort accru de la part des membres européens pour combler certaines lacunes en matière de capacités militaires essentielles telles que le renseignement, la surveillance, la reconnaissance. Voilà, je sais que vous avez d'autres questions, beaucoup d'autres questions. Vous pourrez évidemment lire le rapport annuel du Secrétaire général. Nous devons conclure cette conférence de presse ici et la transmission en direct. Et nous allons maintenant passer à la partie suivante qui est la réception de nouvelle année qui vous donnera la possibilité de dialoguer d'une manière informelle avec le secrétaire général. Merci beaucoup.